Remedios la Belle fut la seule à ne pas être contaminée par cette peste bananière. Elle se fixa dans une adolescence magnifique, toujours plus réfractaire aux conventions, plus indifférente à la malice et à la suspicion, heureuse dans un monde aux réalités toutes simples et bien à elle. Comme elle ne comprenait pas pourquoi les femmes se compliquaient la vie avec toutes sortes de corsets et de jupons, elle se confectionna une ample soutane en grosse toile de chanvre qu'elle n'avait qu'à enfiler par la tête et résolut sans autre forme de procès le problème de l'habillement, sans s'ôter l'impression d'être nue qui, selon sa manière de voir les choses, était la seule tenue décente qu'on dût avoir chez soi. On la tourmenta tellement pour qu'elle coupât ses cheveux, qui lui tombaient en pluie jusqu'aux chevilles, et pour qu'elle se fît des chignons à l'aide de peignes et de tresses nouées de rubans vermillons, qu'elle se coupa tout simplement les cheveux à ras et s'en servit pour faire des perruques au sein. L'étonnant, dans ce don qu'elle avait de tout simplifier, c'était que plus elle délaissait la mode pour ce qui était pratique et passait outre aux conventions pour n'obéir qu'à sa spontanéité, plus son incroyable beauté créait de désordre, et plus son comportement vis-à-vis des hommes paraissait provocant. Lorsque les fils du colonel Aureliano Buendia s'en vinrent pour la première fois à Macondo, Ursula se rappela que dans les veines de chacun coulait le même sang que dans celle de son arrière-petite-fille, et une terreur qu'elle croyait oublier la fit de nouveau frémir.
« Ouvre bien les yeux !» la prévint-elle. « Avec n'importe lequel de ceux-là, les enfants te sortiront du ventre avec une queue de cochon !»
Elle fit si peu cas de l'avertissement qu'elle s'habilla en homme et se roula dans le sable pour grimper au mât de cocagne, et faillit provoquer une tragédie parmi les 17 cousins auxquels cet insoutenable spectacle avait fait perdre la tête. C'était la raison pour laquelle aucun ne couchait à la maison quand il venait en visite au village, et les 4 qui étaient restés vivaient selon ce qu'avait disposé Ursula dans des chambres louées. Remedios la Belle, quant à elle, serait morte de rire si elle avait eu connaissance de pareilles précautions. Jusqu'au dernier moment de son passage en ce bas monde, elle ignora que son irrémédiable destin de femelle explosive constituait un désastre quotidien. Chaque fois qu'elle faisait son apparition dans la salle à manger, contrevenant aux ordres d'Ursula, elle suscitait une exaspération panique parmi les étrangers. Il n'était que trop évident qu'elle était complètement nue sous sa grossière camisole, et nul ne pouvait comprendre que son crâne rasé, si parfait, n'était pas un défi, que l'impudeur avec laquelle elle découvrait ses cuisses pour avoir moins chaud ne relevait d'aucune provocation criminelle, non plus que son plaisir à se sucer les doigts quand elle venait de manger quelque chose à pleine main. Ce que les membres de la famille restèrent sans savoir, c'est que les étrangers ne tardèrent pas à se rendre compte que Remedios la Belle exhalait un souffle troublant, dont chaque bouffée mettait les gens au supplice et qui demeurait perceptible plusieurs heures après qu'elle fût passée. Des hommes experts en désespoir d'amour, dont le savoir était reconnu dans le monde entier, affirmaient n'avoir jamais connu de transe semblable à celle où les mettait l'odeur naturelle de Remedios la Belle. Sous la véranda au bégonia, au salon, en n'importe quel lieu de la maison, il était possible de préciser l'endroit exact où elle était restée et depuis combien de temps elle avait cessé d'y être. C'était une trace bien discernable, qu'on ne pouvait confondre avec aucune autre, que nul dans la maison ne pouvait déceler parce qu'elle faisait partie depuis trop longtemps des odeurs quotidiennes, mais que les étrangers identifiaient sur le champ. Aussi bien étaient-ils les seuls à comprendre que le jeune commandant de la garde fut mort d'amour et qu'un cavalier venu d'autres contrées se fût abandonné au désespoir. Inconsciente de cette inquiétante orbite à l'intérieur de laquelle elle se mouvait, de l'insupportable état de sinistré où elle laissait les gens sur son passage, Remedios la Belle traitait les hommes sans la moindre malice, et achevait de les affoler par ses complaisances ingénues. Quand Ursula réussit à lui faire entendre qu'elle devait manger à la cuisine avec Amaranta pour la soustraire à la vue des étrangers, elle se sentit plus à l'aise puisqu'en fin de compte, elle échappait désormais à toute discipline. En fait, il lui importait peu de devoir manger ici ou là, non plus à heure fixe, mais suivant les caprices de son appétit. Il lui arrivait de se lever pour prendre son déjeuner à 3 heures du matin, puis elle dormait toute la journée, et passait plusieurs mois à vivre selon des horaires fantaisistes, jusqu'à ce qu'un incident fortuit la rendît à l'ordre habituel. Quand tout allait pour le mieux, elle se levait à 11 heures du matin et s'enfermait dans les bains jusqu'à 2 heures, complètement nue, tuant des scorpions tout en se sortant de sa longue et profonde torpeur. Puis elle s'aspergeait avec l'eau de la citerne qu'elle puisait dans un vase en fruits de totumo. Cette opération durait si longtemps, était si méticuleuse, si riche en poses cérémonieuses, que quiconque ne la connaissait pas suffisamment aurait jugé qu'elle sacrifiait à l'adoration méritée de son propre corps. Pour elle, cependant, ce rite solitaire était exempt de toute sensualité. Ce n'était qu'une manière de tuer le temps en attendant qu'elle eût faim. Un jour qu'elle commençait à se baigner, un étranger souleva une tuile du toit et resta le souffle coupé devant l'extraordinaire spectacle de sa nudité. Elle aperçut ses yeux chavirés à travers les tuiles cassées, et sa réaction ne fut pas de honte, mais de peur. « Attention !» s'exclama-t-elle. « Vous allez tomber !»«
Je ne veux rien d'autre que vous voir !» murmura l'étranger.
« Ah bon ? » répondit-elle. « Mais faites attention, toutes ces tuiles sont pourries !» Le visage de l'étranger avait une douloureuse expression de stupeur, et il paraissait lutter sourdement contre ses impulsions primaires afin de ne pas faire s'évanouir le mirage. Remedios la Belle pensa qu'il était tenaillé par la peur que les tuiles ne vinssent à casser, et elle se baigna plus rapidement que de coutume pour éviter à l'homme de demeurer plus longtemps en danger. Tout en s'aspergeant avec l'eau de la citerne, elle lui raconta que c'était tout un problème pour elle que le toit fût dans un tel état, car elle pensait que c'était à cause de la couche de feuilles pourrie par la pluie que les bains étaient infestés de scorpions. L'étranger vit dans ce bavardage une façon de dissimuler sa complaisance, si bien qu'il ne put résister à la tentation de faire un pas en avant lorsqu'elle commença à se savonner.
« Laissez-moi vous savonner, » murmura-t-il.
« Merci pour cette bonne intention, » lui dit-elle. « Mais j'ai assez de mes deux mains. »«
Seulement le dos, » supplia l'étranger.
« Ce serait vraiment du temps perdu, » répondit-elle. « Jamais on n'a vu les gens se savonner le dos. »
Puis, tandis qu'elle se séchait, l'étranger la supplia, les yeux remplis de larmes, qu'elle voulut bien se marier avec lui.
Elle lui répondit avec franchise qu'elle n'épouserait jamais un homme assez niais pour perdre presque une heure et rester même sans déjeuner, rien que pour voir une femme se baigner. Pour finir, lorsqu'elle enfila sa soutane, l'homme ne put supporter cette confirmation de ce que tout le monde suspectait, à savoir qu'elle ne mettait rien dessous. Et il se sentit marqué à jamais du fer rouge de ce secret. Il enleva alors deux tuiles de plus pour pouvoir se glisser à l'intérieur du bain.
« C'est très haut !» l'avertit-elle avec frayeur. « Vous allez vous tuer !»
Les tuiles pourries volèrent en éclats dans un fracas épouvantable, et l'homme n'eut que le temps de pousser un cri de terreur avant de se briser le crâne et mourir sans agonie sur le sol cimenté. Les étrangers qui avaient entendu ce bruit de vaisselle cassée depuis la salle à manger s'empressèrent d'enlever le cadavre sur la peau duquel ils purent déceler la suffocante odeur de Remedios la Belle. Le corps était si pénétré de cette odeur que du crâne fissuré ne coulait pas du sang, mais une huile ambrée tout imprégnée de ce parfum secret. Et les gens comprirent alors que l'odeur de Remedios la Belle continuait à torturer les hommes par-delà la mort et jusqu'à ce que leurs os ne fussent plus que poussière. Pourtant, ils ne firent pas le rapprochement entre cet horrible accident et l'histoire des deux hommes qui étaient déjà morts pour Remedios la Belle. Il s'en fallait encore d'une victime pour que les étrangers et beaucoup de gens parmi les anciens de Macondo donnassent crédit à la légende selon laquelle ce n'était pas un souffle d'amour qu'exhalait Remedios la Belle, mais une émanation mortelle. On eut l'occasion de le vérifier quelques mois plus tard. Un après-midi où Remedios la Belle était allé en compagnie d'un groupe d'amis visiter les nouvelles plantations. Les gens de Macondo avaient trouvé matière à distraction nouvelle dans ces promenades, le long de ces allées humides, interminables, bordées de bananiers où le silence semblait venu d'ailleurs, un silence qui n'avait pas encore servi et qui paraissait d'autant plus lourd à remuer pour que la voix se transmît. Parfois, on n'entendait pas très bien ce qui était prononcé à 50 cm de distance, mais les mêmes paroles s'avéraient tout à fait compréhensibles à l'autre bout de la plantation. Les jeunes filles de Macondo trouvaient dans ce nouveau jeu prétexte à rire, à sursauter, à prendre peur et à se moquer, et le soir venu, on parlait de cette promenade comme d'une expérience de rêve. On faisait un tel battage autour de ce silence qu'Ursula ne se sentit pas le cœur à priver Remedios la Belle d'une pareille distraction et lui donna la permission d'y aller voir, un après-midi, à condition qu'elle mît un chapeau et une toilette convenable. Dès l'instant où le groupe d'amis entra dans la plantation, l'air s'imprégna d'un parfum mortel. Les hommes qui travaillaient dans les tranchées entre chaque rangée d'arbres se sentirent soudain en proie à une fascination étrange. Menacés par quelque invisible danger, et beaucoup cédèrent à une irrésistible envie de pleurer. Remedios la Belle et ses amis épouvantés parvinrent à se réfugier dans une maison voisine, alors qu'une bande de mâles féroces était sur le point de les attaquer. Elles ne tardèrent pas à être délivrées par les quatre Aurelianos dont les croix de cendre inspiraient un respect religieux, comme s'il se fût agi du signe de quelque caste ou de la marque de leur invulnérabilité. Remedios la Belle ne raconta à personne qu'un de ces hommes, profitant de la confusion, réussit à l'agripper au ventre avec une main qui ressemblait plutôt à une serre d'aigle se cramponnant au bord du précipice. Dans une sorte d'éblouissement qui dura le temps d'un éclair, elle fit face à son agresseur et découvrit son regard désolé dont l'image se fixa dans son cœur apitoyé comme un charbon ardent. Cette nuit-là, dans la rue aux Turcs, l'homme se vanta de son audace et présuma trop de sa bonne fortune. Quelques minutes plus tard, un cheval lui défonça la poitrine d'un coup de sabot et une cohue d'étrangers le virent agoniser au milieu de la rue, vomissant des caillots de sang qui le faisaient étouffer. L'hypothèse d'après laquelle Remedios la Belle détenait certains pouvoirs de mort reposait désormais sur quatre faits irréfutables. Quelques hommes, beaux parleurs, se plaisaient à répéter qu'une nuit d'amour avec une femme si troublante valait bien qu'on y laissât la vie, mais à la vérité, nul ne tenta le moindre effort en vue de l'obtenir. Peut-être aurait-il suffi pour la vaincre, mais également pour conjurer ses dangers, d'un sentiment aussi primitif et simple que l'amour. Mais ce fut bien la seule chose qui ne vint à l'esprit de personne. Ursula cessa de s'occuper d'elle. Autrefois, quand elle n'avait pas encore renoncé à l'idée de la récupérer, de la rendre à une vie normale, elle chercha à l'intéresser aux rudiments de la vie domestique. « Les hommes sont plus exigeants que tu ne crois, » lui disait-elle avec mystère. « Il faut cuisiner sans relâche, balayer tout le temps et souffrir souvent pour de petits riens. Tu ne peux pas te figurer. » Dans son fort intérieur, elle savait qu'elle se leurrait à vouloir lui enseigner comment créer un foyer heureux, car elle était convaincue qu'une fois sa passion assouvie, il ne se trouverait pas un homme au monde pour supporter, ne fût-ce qu'une journée, cette insouciance qui était au-delà de toute compréhension. La naissance du dernier José Arcadio et son inébranlable volonté d'en faire un pape achevèrent de la détourner de son arrière-petite-fille, dont elle ne se préoccupa plus. Elle l'abandonna à son sort, se disant avec confiance qu'un miracle se produirait tôt ou tard, et qu'en ce monde où l'on trouvait de tout, il finira bien par se trouver un homme assez flegmatique pour se la flanquer sur les bras. Bien avant cela, Amaranta avait déjà renoncé à faire la moindre tentative pour la changer en femme utile à quelque chose. Depuis ces après-midi oubliés qu'elle passait dans l'atelier de couture et où sa nièce tournant la manivelle de la machine à coudre n'avait pas l'air de s'intéresser beaucoup à ce qu'elle faisait, elle en était arrivée à la simple conclusion que Remedios était idiote. « On va devoir te mettre en loterie, » lui disait-elle, intriguée par son insensibilité aux paroles que lui adressaient les hommes. Plus tard, quand Ursula se mit en tête d'envoyer Remedios la Belle à la messe, le visage dissimulé sous une mantille, Amaranta pensa qu'un tel accessoire, augmentant le mystère, n'en serait que plus provoquant, et qu'il se trouverait très rapidement un homme, sa curiosité suffisamment attisée pour chercher avec patience le point faible de son cœur. Mais quand elle vit de quelle manière insensée elle méprisa ce prétendant, qui à bien des égards était plus désirable qu'un prince, elle se fit à l'idée que tout espoir était perdu. Fernanda, quant à elle, n'essaya même pas de la comprendre. Quand elle vit Remedios la Belle costumée en reine, au cours du carnaval sanglant, elle se dit qu'il s'agissait là d'une créature extraordinaire. Mais lorsqu'elle la vit manger avec ses doigts, incapable de fournir une réponse qui ne fût un prodige de simplicité d'esprit, elle ne trouva à se plaindre que d'une chose, que les idiots dans la famille vécussent si longtemps. Bien que le colonel Aureliano Buendia persistât à croire et à répéter que Remedios la Belle était en réalité l'être le plus lucide qu'il eût jamais rencontré, et qu'elle en donnait la preuve à tout moment par l'étonnante finesse avec laquelle elle se moquait de tous, on l'abandonna à la grâce de Dieu. Remedios la Belle continua d'errer dans le désert de la solitude, sans endurer aucun malheur, s'épanouissant dans ses rêves jamais entrecoupés de cauchemars, dans ses bains interminables, ses repas à n'importe quelle heure, ses longs et profonds silences, à ne remâcher nul souvenir, jusqu'à cet après-midi de mars, où Fernanda décida d'aller au jardin plier ses draps de toile de Brabant et demanda de l'aide aux femmes de la maison. À peine avait-elle commencé qu'Amaranta remarqua l'intense pâleur de Remedios la Belle, qui la rendait presque diaphane. « Tu ne te sens pas bien ?» lui demanda-t-elle. Remedios la Belle, qui avait empoigné le drap par l'autre bout, eut un sourire de commisération. « Au contraire, dit-elle, jamais je ne me suis mieux trouvée. » À ces mots, Fernanda sentit une brise légère et lumineuse lui arracher les draps des mains et les déplier dans toute leur largeur. Amaranta éprouva comme un frissonnement mystérieux dans les dentelles de ses jupons et voulut s'accrocher aux draps pour ne pas tomber. À l'instant où Remedios la Belle commençait à s'élever dans les airs, Ursula, déjà presque aveugle, fut la seule à garder suffisamment de présence d'esprit pour reconnaître la nature de ce vent que rien ne pouvait arrêter, et laissa les draps partir au gré de cette lumière, voyant Remedios la Belle lui faire des signes d'adieu au milieu de l'éblouissant battement d'ailes des draps qui montaient avec elle, quittaient avec elle le monde des scarabées et des dahlias, traversaient avec elle les régions de l'air où il n'était déjà plus 4 heures de l'après-midi, pour se perdre à jamais avec elle dans les hautes sphères où les plus hauts oiseaux de la mémoire ne pourraient eux-mêmes la rejoindre.